put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do.
Sur le théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique en direct tous les vendredis sur Radio Canu. Et avec nous dans le studio, Sabrina Laure. Bonjour Sabrina.
Bonjour Anaïs.
Et Dominique qui est là.
Bonjour Anaïs.
Et vous allez donc, c'est une émission spéciale, une émission carte blanche à la compagnie Ensemble Romana, une compagnie stéphanoise, autour de Rosa Luxembourg. Peut-être première question, peut-être pourquoi Rosa Luxembourg ?
Alors, peut-être on va resserrer ou élargir ta question, parce que l'Ensemble Romana, c'est un groupe de travail, c'est une compagnie implantée à Saint-Étienne, sur le territoire stéphanois, mais on ne travaille pas uniquement autour de Rosa Luxembourg. C'est une compagnie qui existe depuis 2003, un groupe de travail plutôt qu'une compagnie, enfin, voilà, plutôt ça, et puis un groupe de travail éphémère selon les projets, donc les gens se greffent, qu'ils soient associés à d'autres structures, d'autres compagnies ou simplement indépendant. Il n'y a pas de permanent en soi. Voilà, personne ne fait qu'appartenir à l'Ensemble Romana. Et Rosa Luxembourg, ça fait quelques années, presque 15 ans, que j'ai eu l'occasion de découvrir les textes de Rosa Luxembourg. J'ai pris le temps de ça, parce que l'œuvre est conséquente. Et que quelquefois il y a des ouvrages, des textes qui m'ont demandé du travail parce que j'avais pas les outils forcément politiques ou économiques pour comprendre. Et en 2014, on a eu envie. J'ai proposé à Saint-Étienne des artistes, des intellectuels et puis et d'autres et des habitants de travailler autour de Rosa Luxembourg, autour de son œuvre et de ses de ces luttes, mais parce que peut-être ça ressemble à la manière que j'ai de travailler. Simplement parce que quand je tombe sur un texte qui me plaît, j'ai envie d'aller lire d'autres textes de ce ou cette même auteur, et puis de comprendre. Donc voilà l'idée du travail autour de Rosa Luxembourg à Saint-Étienne, et plus précisément en 2014, lors de la quinzaine à laquelle Dominique, à mes côtés, a participé grandement.
Et justement, ouais, donc toi Dominique, tu es animatrice d'un blog qui s'appelle Comprendre avec Rosa Luxembourg. Donc par ailleurs, je précise que tu es notre invitée au Théâtre de la Gamelle aujourd'hui, mais que ce soir, tu participes aussi à l'invitation de l'association Table Rase à une conférence publique qui se situera au 169 Grande Rue de la Guillotière à 18h30 sur Rosa Luxembourg et la question du colonialisme. Donc déjà, merci beaucoup d'être avec nous au Théâtre de la Gamelle. Est-ce que tu peux peut-être nous dire, toi, ce qui t'a amené à découvrir et à vouloir approfondir la pensée et l'œuvre de Rosa Luxembourg?
Je vais peut-être aussi commencer par détourner un peu ta question. Si je suis là aujourd'hui, en effet, c'est à l'invitation de Table Rase et donc sur la question du colonialisme. Et si Sabrina et moi, nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est parce que j'ai souhaité, après l'expérience que j'ai eue avec Sabrina dans le cadre de la quinzaine Rosa Luxembourg, j'ai souhaité qu'elle participe à cette conférence par la lecture de textes, parce que je pense aussi que pour une meilleure compréhension de certains événements d'aujourd'hui, et c'est important de connaître Rosa Luxembourg, mais que d'autre part, le passage par la voie théâtrale est, me semble très, très judicieuse. Nous avons eu une première expérience avec Sabrina il y a quelques mois. Nous étions invités par la médiathèque du 13e arrondissement à Paris, qui nous invitait pour Rosa Luxembourg, figure d'humanité et de révolte. Et là encore, j'avais pensé que Sabrina pouvait venir dans le cadre de cette conférence, plus exactement de cette rencontre, faire passer la voix et les idées de Rosa Luxembourg.
Avant même d'approfondir peut-être plus son analyse, sa pensée économique, peut-être on va aussi la resituer dans l'histoire. Parce que peut-être que tous les auditeurs ne connaissent pas cette révolutionnaire d'origine polonaise qui prend donc la nationalité allemande par un mariage blanc qu'elle effectue, je ne sais pas en quelle année, mais en tous les cas, pour ceux qui ne savent pas quand est-ce qu'elle est née, elle est née en 1871. Et c'est marrant aussi cette date, je trouve, parce que elle est née en même temps que la Commune de Paris. On peut peut-être faire aussi des parallèles comme ça. Et puis elle est morte sous les coups en fait des milices à la solde de la social-démocratie allemande, sous les coups de NOSK. Et donc ces milices qui étaient chargées de mater la révolution de 1918-1919 en Allemagne. Voilà pour situer au niveau historique. Mais voilà, après Rosa Luxembourg, vous allez peut-être en parler certainement plus que moi, mais peut-être on peut situer Dominique, qui c'était, qu'est-ce qu'elle a fait.
Tu as dit l'essentiel. Pour moi, c'est une militante révolutionnaire qui, à plusieurs reprises, s'est jointe réellement à des pratiques révolutionnaires. C'est une militante qui a refusé, grâce à ses analyses de classe, qui a refusé tout ce que nous devons refuser encore aujourd'hui, le nationalisme en particulier. C'est une militante qui a été emprisonnée 5 fois dans le cadre de son combat contre la guerre. C'est une militante qui a, pendant aussi bien dehors qu'en prison, a développé ses analyses à partir d'une approche marxiste qui lui a permis, je pense, contrairement au réformisme qu'on voit aujourd'hui encore à l'œuvre avec la social-démocratie française, qui lui a permis donc de refuser la boucherie de 14, avec tout son courant, bien sûr, elle n'est pas seule. Et il est important, en effet, de constater que le combat contre le réformisme peut mener très loin, puisqu'elle a été, en effet, assassinée par ce qui va devenir plus tard les SA, etc., c'est-à-dire par des bandes fascistes qui se sont constituées à l'époque. Mais le gouvernement qui était à l'époque en place, c'était un gouvernement social-démocrate. Donc voilà, pour moi, c'est très important. Maintenant, c'est vrai que je pense que ce serait intéressant de revenir sur l'émission théâtrale et peut-être cette approche générale de Sabrina et de l'ensemble Romana de la pratique théâtrale qui lui a fait, en effet, dans le cadre de cette quinzaine, déjà elle-même proposé un spectacle, mais qui aussi a intégré de par sa manière de voir le spectacle, a pu intégrer plus de 200 personnes qui, chacune à leur manière, ont lu, ont exposé, donner à entendre Rosa Luxembourg. Donc au-delà peut-être de Rosa Luxembourg, je pense que ce serait intéressant de voir ce que l'ensemble Romana et Sabrina plus particulièrement apportent de vraiment extrêmement particulier pour moi dans les pratiques théâtrales.
Peut-être restier pour les auditeurs que la quinzaine Rosa Luxembourg a eu lieu au mois de mai 2014 à Saint-Étienne. Et donc, tu l'as déjà dit, Dominique, elle a effectivement rassemblé plus de 200 participants, participantes, artistes, plasticiens, scénographes, lecteurs, voilà, et autres.
Enfants.
Enfants.
Jardin.
Il y avait du monde.
Jardin, rue, objets, choses. Mais pas beaucoup. Pas beaucoup de personnalités issues du monde culturel institutionnel et des politiques. Et c'est vraiment pas dit du tout avec c'est pas un pied de nez, c'est pas ironique, c'est un peu triste. Un peu triste parce que est-ce que ça ne raconte pas un tout petit peu la situation culturelle des villes que nous, enfin, dans lesquelles nous vivons. Je ne parle pas uniquement de Saint-Étienne. Et c'est toujours assez problématique parce qu'il me semble que n'importe quel acte théâtral est un acte politique au sens noble du terme, dans le sens où c'est simplement un endroit de partage, de réflexion, de questionnement, et que si on que l'on connaisse ou non les auteurs, que l'on soit militant, engagé ou pas, que juste avec les outils que l'on a là où on en est, et que ce n'est pas un espace, à mon sens, moi, de idéologique. Donc je ne comprends pas en fait l'absentéisme des politiques et des institutions culturelles pendant ces quinzaines, et ça n'a pas été la seule. Hein. On avait démarré en 2012 avec un auteur qui s'appelle Richard Brotigan, et puis là, dernièrement, avec Kate Biassine. Et je trouve ça un petit peu triste que l'on imagine que de développer la pensée, les luttes d'auteurs engagés, militants, incroyablement ancrés deviennent comme une espèce de peur de la part de ceux et celles qui ont le pouvoir de nous aider à continuer à exercer notre métier. Il me semble. Bon, bref, petite parenthèse fermée, j'ai peut-être pas été très très claire, mais voilà, ça m'interroge véritablement. Après, je ne pense pas qu'il y ait d'envie de faire exister certains individus, certaines personnes, certaines structures plus que d'autres. Je ne sais pas, j'espère pas que ce soit ça. En revanche, voilà, alors que sur cette quinzaine en particulier, celle qui traitait de Rosa Luxembourg, de son œuvre et de ses luttes, effectivement, comme Dominique le disait, ça a impliqué énormément d'habitants, énormément de gens, et pas forcément des artistes, pas forcément des gens spécialistes de Rosa Luxembourg ou des questions économiques soulevées par Rosa Luxembourg. C'était justement un espace de rencontre, d'interrogation, de se dire peut-être qu'il est important d'utiliser le théâtre, les arts, quels que soient les moyens pour continuer de se rencontrer, de ne pas être d'accord, d'échanger et de s'octroyer le droit de ne pas savoir aussi. Parce que je ne me considère pas du tout comme une spécialiste de Rosa Luxembourg, absolument pas. En revanche, il y a des idées qui m'interrogent, des mots, simplement, aussi sensiblement, et que les parcours de poésie politique comme ça dans une ville me paraissent importants, enfin, juste pour pas, parce que l'oubli est rapide, en fait. l'oubli rapide en ces temps sombres, et que voilà, de porter la parole de Rosa Luxembourg ou d'autres me paraît essentiel. Et c'est absolument pas pour faire l'apologie de quoi que ce soit, même si finalement on pourrait tout à fait avoir le droit de ça.
Bon. Ce qui m'intéresse aussi dans la démarche théâtrale de Sabrina, c'est en fait ce décloisonnement entre les spectateurs de théâtre, du théâtre. Bon, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui a travaillé à l'âge de 12 ans, qui était du Nord, mais qui m'a emmenée dès l'âge de 10-12 ans, même avant, je pense, au théâtre et pas au théâtre de boulevard, au théâtre avec un grand T. Et je pense que beaucoup de choses m'ont été transmises par le théâtre, par les textes, par les acteurs, par le jeu. Et j'ai eu la chance, moi, d'être emmenée par ma famille, par mon environnement dans un théâtre. Et ce qui me semblait intéressant dans la démarche de, par exemple aussi de la quinzaine Kateb Yassine là dernièrement, c'est justement que beaucoup de personnes aussi disaient, mais je ne connaissais pas Kateb Yassine. Peut-être tout au plus le nom et même peut-être pas le nom. Je ne connais, beaucoup de gens disaient, je ne connaissais pas Rosa Luxembourg. Quant au premier, Brottigan, je reconnais que je faisais partie des gens qui ne connaissaient pas. Ça veut dire quand même que c'est extraordinaire, cette force de cette démarche qui est une démarche de transmission, mais pas seulement de la pensée, mais aussi, pour moi, ce qui est très important sur ces deux personnes, je connais moins le premier auteur, c'est transmission aussi d'une certaine sensibilité. Et voilà, je sais pas, c'est une question à Sabrina, puis aussi à toi, Anaïs, hein, puisque vous êtes, si vous êtes conscient de ce rôle énorme que joue le théâtre dans la conscience. C'est pas un hasard si Brecht a été un des grands hommes de théâtre, mais on pourrait en citer d'autres qui ont transmis beaucoup de choses. Je sais pas si c'est conscient, cette transmission de la sensibilité et de la pensée. Anaïs, c'est toi qui dois répondre, fais signe.
Mais oui, d'habitude c'est moi qui pose les questions. Non mais oui, effectivement, le théâtre est un art qui est éminemment politique, qui peut être vecteur d'idées aussi bien conservatrices, de l'ordre établi, voilà, porté par un théâtre bourgeois, un théâtre mort, un théâtre linéaire, aurait dit Jean-Marie Serrault. Mais oui, le théâtre dans une dimension populaire et une dimension, parle de Brecht qui disait que le théâtre est aussi un art du divertissement, mais qui peut avant tout être un vecteur d'analyse, de reflet de la société, de ses contradictions, de classe, de genre, de tout ce qui nous traverse et qui fait que le théâtre n'est pas en dehors ou au-dessus de la société. Il en fait partie à part entière. Et donc, du coup, les artistes qui s'emparent de cet outil, hein, on peut dire que c'est un outil finalement, comme une forme d'arme, s'en emparent consciemment pour ouvrir des brèches, porter à la réflexion des analyses d'auteurs et des contradictions de la société. Donc, oui, c'est un bon vecteur aussi. Hein. C'est un bon vecteur pour faire passer des idées, évidemment. Mais peut-être qu'on peut faire place aux mots, peut-être qu'on peut entendre des textes maintenant, faire entendre aussi à nos auditeurs des extraits. Sabrina a choisi de nous faire entendre un certain nombre de textes de Rosa Luxembourg.
Un certain nombre. Mais peut-être un texte qui raconte la rencontre d'une femme avec Rosa Luxembourg. Donc c'est une autre rencontre et qui malheureusement raconte aussi l'éternelle violence de l'incarcération, puisque si beaucoup d'auditeurs le savent, peut-être que beaucoup d'autres aussi ne savent pas, Rosa Luxembourg a passé les quasi 4 années de 14-18 incarcérée. Et Voilà, et elle a écrit, elle a continué à lutter, à s'interroger sur la vie politique en prison, mais elle a aussi beaucoup écrit sur ses conditions de détention. Et là, on a un petit texte qui raconte la rencontre entre Dominique et Rosa Luxembourg, incarcérée à quelques dizaines d'années d'écart. C'est à Metz et avec le travail sur Rosa Luxembourg que je pourrais vivre autrement. Metz et Rosa Luxembourg, ma compagne de réflexion, de travail, de vie, de sentiments, de sensations. Metz que le. Comment une prison peut-elle avoir un nom si peu sérieux ? Avant même le passage des surveillantes, car je refuse de bouger sur ordre, alors que la prison dort encore, et que l'on s'entend presque soi-même respirer et vivre, le café bricolé des détenus devant moi, assise à la table face au ciel qui lentement s'éclaircit, je commence une lecture et un travail quotidien, la correspondance et les écrits de Rosa Luxembourg. Cela fait la sixième prison que j'intègre, et ma troisième année de vie quotidienne avec RL. Militante révolutionnaire, je vis depuis 4 ans au rythme des transferts et de l'isolement. Le transfert, c'est pour les femmes le moyen d'isolement préféré de l'administration pénitentiaire. Depuis longtemps déjà, je proteste par le silence. Alors, en dehors de l'heure de promenade avec 2 prisonnières, c'est Rosa Luxembourg qui est mon seul interlocuteur. La cellule, organisée autour des 11 tomes de Dietz Verlag, texte et correspondance, gros livre solide et compact qui rassure. 2 grands cahiers Claire Fontaine que je remplis précieusement, avec des notes prises au hasard de ce qui me parvient, articles de journal, lecture, émission, je colle, je commente, j'annote, d'une mini-écriture soignée. Je vis au travers de cette calligraphie dont je ne me lasse pas. Comme les livres, l'écriture crée un cadre, rassure, fait le lien au réel. Crée de l'existant. Et puis il y a la beauté du papier, des mots qui se forment, l'objet qui peu à peu se crée. Une petite machine à écrire jaune, maintenant devenue mythique à l'heure de l'ordinateur, du papier pelure pour que ce soit moins lourd, et les traductions s'ajoutent aux traductions, elles aussi réelles, sûres, existantes. Elles rejoignent les dossiers. Un jour, arrive un fac-similé du numéro unique de l'International auquel a participé Rosa Luxembourg et qu'elle a impulsé entre 2 emprisonnements. Lire Rosa Luxembourg en prison, lire ses lettres en détention, c'est avoir l'impression que la prison reste éternellement même. Ses moyens pour tenter de vous soumettre, mais parfois un respect qui ne peut s'empêcher de transparaître pour la volonté inflexible que vous pouvez montrer. La lecture en prison de Rosa Luxembourg en prison prend une extraordinaire profondeur et une profonde résonance. La description de son quotidien entre silence et travail intellectuel, l'évocation de tout ce que représente un transfert, la condamnation à 10 jours pour révolte contre un surveillant qui lui interdit d'aborder un sujet pendant un parloir, tout me parle fortement, étrangement. Le silence qu'évoque Rosa Luxembourg est celui qui règne autour de moi. La condamnation fait écho aux nombreux mitards connus pour refus de transfert ou autres et diverses raisons. L'ambivalence du personnel entre respect pour la résistance quotidienne et blessures répétées de 1000 petites atteintes, je la retrouve dans certaines lettres. Et je retrouve l'extraordinaire impression d'isolement incommensurable quand des nouvelles terribles vous arrivent. Pour Rosa Luxembourg, les morts de la guerre 14-18. L'observation du ciel, des innombrables nuances qu'il prend de l'aube à l'aurore, des oiseaux peu romantiques qui squattent la cour. Le suivi à distance de la vie quotidienne des prisonnières nous met en phase. La respiration semble parfois se suspendre comme le temps. Et puis, il y a partagé l'obstination politique à travailler entre 4 murs malgré la prison. Il y a le regard des surveillantes devant ce travail obstiné. Il y a l'attention des prisonnières et leurs attentions qui vous arrivent malgré les ordres carcéraux d'isolement. Lire Rosa Luxembourg en prison, c'est affirmer sa résistance, mais aussi la permettre. Mais lire Rosa Luxembourg en prison, c'est aussi suivre ses analyses et voir ce qu'elles ont de relevant pour nous, aujourd'hui. C'est être porté vers le haut. C'est aiguiser son intelligence. C'est devenir une autre. C'est apprendre et comprendre. Et surtout, lire Rosa Luxembourg en prison pour un militant politique, c'est réfléchir à son propre combat, au système que l'on a combattu et que l'on continue à combattre. Lire Rosa Luxembourg en prison, c'est vivre beaucoup plus intensément. Faire tomber les murs, rire toute seule d'une saillie et admirer ses trésors d'écriture. Lire Rosa Luxembourg en prison, c'est vivre consciente et vivre libre.
If I talk real slowly, if I try real hard to make my point here, that you have my heart, here I go.
Vous êtes bien sur le Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique en direct tous les vendredis sur Radio Canu. Et donc nous venons d'entendre Angus et Julia Stone, For You, après la lecture d'un texte lu par Sabrina Laure de la compagnie Ensemble Romana, une compagnie stéphanoise. Un texte donc écrit par Dominique sur Rosa Luxembourg.
Si tu veux, ces textes ont été écrits, certains pour Sabrina, une grande partie pour Sabrina, quand elle m'avait demandé, comme toi tu l'avais fait, comment j'étais venue à Rosa Luxembourg. Mais ce sont aussi des mails, finalement, des choses très courtes, des virgules que j'avais écrites en essayant de retrouver les respirations, le silence, enfin tout ce qui pouvait marquer l'isolement, les quartiers d'isolement en prison, puisque sur les 5 ans, j'étais emprisonnée 5 ans et sur les 5 ans, j'ai été isolée 4 ans et demi. Et donc, quand j'ai entendu la première fois ce texte lu, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était la fête de la CNT à Paris.
Alors, non,
c'était...
C'était il y a bien plus longtemps, sauf que celui que tu as entendu à la fête de la CNT, c'est celui-ci, mais lié à un autre que tu as écrit, que tu m'avais envoyé. Et voilà, donc j'ai fait une espèce de collage, comme je suis une...
Et je pense que j'ai l'impression que c'est vraiment une illustration majeure de ce que peut apporter la voix, de ce que apporter la lecture d'un acteur avec une conscience et une sensibilité certaine. La transmission de cette voix ne peut passer avec cette force que par la voix en l'occurrence de Sabrina. Et inversement, la Sabrina me disait que c'est quand même, comment tu as dit ça, que tu préférais les mots des autres.
Non, parce que j'ai décidé de faire un métier de paresseuse. Du coup, c'est très bien. Il y a des gens riches, intelligents, en lutte, qui écrivent, qui ont laissé des traces, mais pas forcément des textes politiques, mais de la poésie. Et je trouve que ce serait dommage de s'en priver quand on n'a pas le talent, soit d'écrire, ou peut-être parce que je suis juste une grande frustrée de l'action politique. Alors du coup, je me réfugie derrière des textes d'autres et notamment d'auteurs engagés. Bon voilà, après ce serait des problématiques égocentriques pas tellement intéressantes à développer, mais en tout cas c'est vrai que qu'est-ce que c'est plaisant et qu'est-ce que ça permet de s'élever que d'aller à la rencontre des mots des autres, surtout quand ils sont porteurs, et puis que c'est humblement le boulot que je fais, donc voilà. Plus simple que tout le blabla, voilà. Et je trouve que ce texte-là, en l'occurrence, si on avait, puisque la question c'était le lien avec Rosa Luxembourg et qu'est-ce que peut provoquer Rosa Luxembourg à sa lecture chez chacun d'entre nous, ben je trouve que ce texte-là le raconte incroyablement bien. Et voilà, donc on aurait dû commencer par ça peut-être.
Ouais.
On retrouve, si tu veux, quand on regarde les artistes et comédiens et Rosa Luxembourg, on retrouve pratiquement tous les grands, tous ceux qui grands dans le sens qu'ils nous importent par leur sensibilité. Bon, ça peut aller de Godard à Benedetto, ça peut aller aujourd'hui de Sabrina à Valérie Gaudissart, qui a fait un superbe film autour de Rosa Luxembourg. C'est vrai que ce que tu as fait là dernièrement, Sabrina, sur Kateb Yacine, c'est vrai que ce qui m'a frappé par exemple sur Kateb Yacine, c'est que beaucoup de gens ont dit je connaissais le nom, mais je n'ai pas envie de lire, je n'ai plus envie de lire de la poésie, j'ai envie de l'entendre. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me concerne aussi. Et j'ai trouvé, ça s'est dit plusieurs fois dans la quinzaine Kateb Yassine, que le travail théâtral, le travail du comédien, et en l'occurrence aussi pour Sabrina de metteur en scène, parce que tu avais mis en scène écrit, on peut dire, et réalisé une pièce qui s'appelait Les Souliers Rouges. Et je pense qu'en effet, pour beaucoup de gens, c'est difficile de lire aujourd'hui. On a une difficulté à lire des textes qui ont une certaine force. Et pouvoir les entendre, avec le frémissement de la voix, avec l'impression que la personne qui lit est en symbiose avec ce qu'elle lit. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est inestimable et qui fait que ça restera toujours presque une exigence de développer le spectacle vivant.
Moi, ce qui, en tout cas, m'a vraiment émue là, dans le texte que t'as lu, Sabrina, c'est la question des silences. Puis t'as parlé aussi de l'isolement, toi, Dominique. Le silence, mais l'espoir énorme, en fait, de cette force, en fait, qu'avait Rosa Luxembourg et que t'as eu, toi aussi, Dominique, de se dire que malgré l'emprisonnement, l'incarcération, la violence, en fait, de l'emprisonnement, la lutte, elle continue en dehors des murs. Et est-ce que, du coup, ça, c'est cet espoir-là qu'on entend très fortement, hein, que ce soit dans la correspondance de Rosa Luxembourg ou dans ses textes, est-ce que c'est quelque chose qu'on arrive à conserver en prison, cet espoir ?
J'ai l'impression qu'on le conserve plus en prison qu'aujourd'hui, dans le monde que l'on est en train de vivre, avec la violence des... En prison, tu es quelqu'un qui résiste. Et dehors, tu ne sais plus comment résister, tant il y a à résister pratiquement au quotidien. Et pratiquement, dans une prison, tu résistes à chaque seconde. C'est logique. Il n'y a pas de souci. Dehors, tu te demandes si quelquefois tu n'es pas partie prenante de ce monde qui est en train de devenir de plus en plus violent et de plus en plus atroce. Enfin, de plus en plus, il a eu plusieurs phases, hein, dans le fascisme et la Première Guerre mondiale, et en effet tout le colonialisme dont on parlera. Je pense que un militant en prison, et Rosa Luxembourg tout spécifiquement en prison, garde l'entièreté de son identité. Et ce que m'a apporté la lecture de Rosa Luxembourg en prison, puisque j'ai vécu avec les fameux 11 livres, c'est cette capacité d'analyser, de continuer à penser et de continuer à ressentir. Très très important pour moi, cette dimension de la sensibilité. Et c'est pour ça, je pense, que je suis... tellement sensible au spectacle vivant, c'est que dans le texte passe un certain nombre de choses, mais il en passe tellement plus dans le texte lu. Je sais que tu apprécies beaucoup, Sable, les lectures. Tu aimes lire en tant que comédienne des textes.
Ouais, l'exercice de la lecture, enfin en tout cas c'est complètement autre chose que d'être dans l'interprétation réelle ou la proposition de mise en scène. C'est un autre objet théâtral, la lecture. Et c'est vrai que j'aime ça, mais peut-être parce que mais c'est la même manière que j'aime au théâtre les metteurs en scène, les comédiens qui ne se chargent pas de tenter de nous convaincre, nous spectateurs. Ils sont simplement convaincus de l'intérêt ou du plaisir qu'il y a à partager, échanger, lire ou jouer ou interpréter, mais qui ne sont pas dans un dans une lutte avec eux-mêmes et avec nous, spectateurs, et dont, dans la... qui continue de questionner. Et peut-être, peut-être, qu'effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là, d'une espèce de mise à distance tout à fait naturelle avec la lecture, qui existe et qui, à mon sens, doit être là en jeu dans l'interprétation, mais qui est peut-être plus... Plus simple, on est dans un rapport peut-être plus direct avec l'auditeur spectateur, avec l'objet lecture. Dans
un... Oui, mais justement, allons donc profitons-en oui. pour faire entendre ces mots et cette lecture à nos auditeurs. Il nous reste un petit quart d'heure.
La guerre arrache complètement tous les voiles dont le monde bourgeois, ce monde de fétichisme économique, politique et social nous enveloppe constamment. La guerre détruit l'apparence qui fait croire à l'évolution sociale pacifique, à l'omnipotence et à l'intangibilité de la légalité bourgeoise, à l'exclusivisme national, à la stabilité des conditions politiques, à la direction consciente de la politique par ces hommes d'État ou des partis, à la portée capable d'ébranler le monde des chamailleries dans les parlements bourgeois, au parlementarisme comme centre prétendu de l'existence sociale. La guerre déchaîne, en même temps que les puissances réactionnaires du monde capitaliste, les forces génératrices de révolutions sociales qui fermentent en leur profondeur. C'est un extrait d'un texte de Rosa Luxembourg et qui est paru, je crois que c'est pour la fête du 1er mai, où Karl Liebknecht avait appelé à une grande manifestation. Et voilà, c'est un court extrait d'un texte écrit par Rosa Luxembourg sur la guerre, vous l'avez bien entendu, ou contre.
Et peut-être donc rappeler que donc Rosa Luxembourg était donc une économiste, théoricienne, elle était chargée de la formation en économie politique à l'école du Parti ouvrier social-démocrate allemand, qu'elle a écrit donc des textes d'analyse très poussés dans ce sens-là, hein, d'analyse économique, et qu'elle a participé activement à la création d'une tendance du communisme vraiment révolutionnaire au sein du Parti ouvrier social-démocrate allemand. Elle a participé à la création de la Ligue spartakiste et donc elle a été amenée à rédiger un programme de lutte. Elle a été amenée à penser en fait une forme d'objet de renversement en fait de l'appareil d'État et de toute la société, quoi. Je sais pas si t'as des extraits de nous faire entendre de ça, de la Ligue spartakiste, ou si t'as prévu des textes.
Alors, j'en ai en tête, mais ce serait pas précis. Donc avec moi, là, non. En revanche, j'ai si tu veux faire le lien avec ces analyses économiques, j'ai un court extrait, j'espère que ce ne sera pas trop abscon, parce que de l'accumulation du capital...
Ouais.
Donc un extrait qui donc ça c'est sorti de tout le travail qu'a fait Dominique, hein, qui a recueilli des textes par thème de Rosa Luxembourg sur son blog.
Le blog donc, comprendre là, avec Rosa Luxembourg, je le rappelle pour les ouais. auditeurs.
Et donc là c'est un texte de 1913 sur l'impérialisme français en Algérie, extrait de l'accumulation du capital. À côté de l'Inde britannique et de son martyr, l'Algérie, sous la domination politique française, tient une place d'honneur dans les annales de l'économie coloniale capitaliste. Lorsque les Français conquirent l'Algérie, la masse de la population kabyle était dominée par des institutions sociales et économiques très anciennes qui, à travers l'histoire mouvementée du pays, se sont maintenues jusqu'au XIXe siècle et en partie jusqu'à aujourd'hui. Sans doute la propriété privée existait-elle dans les villes parmi les Maures et les Juifs, chez les marchands, les artisans et les usuriers, Sans doute, la suzeraineté turque avait-elle confisqué dans la campagne de grandes étendues de terre comme domaine d'État. Cependant, presque la moitié de la terre cultivée était restée propriété collective des tribus arabes kabyles qui gardaient des mœurs patriarcales très anciennes. Beaucoup de tribus arabes menaient au XIXe siècle la même vie nomade qu'elles avaient toujours menée et qui ne semble instable et désordonnée qu'à un regard superficiel, mais qui en réalité est réglée de manière stricte et souvent monotone. Chaque été, avec les femmes et les enfants, emmenant les troupeaux et les tentes, elles émigraient vers la région côtière de Tell, au climat rafraîchi par le vent, et chaque hiver les ramenait à la chaleur protectrice du désert. Chaque tribu et chaque famille avaient leurs itinéraires déterminés, les stations d'hiver ou d'été où elles plantaient leurs tentes étaient fixes. De même, chez les Arabes agriculteurs, la terre était la plupart du temps propriété collective des tribus. La grande famille kabyle avait également des mœurs patriarcales et vivait selon des règles traditionnelles sous la direction de ses chefs élus. C'est un court extrait, alors évidemment il faudrait développer, peut-être analyser, mais là peut-être Dominique tu peux...
Je ne sais pas si c'est voulu, mais bon, ça fait bien sûr le lien avec la rencontre de ce soir. En fait, là encore, c'est parti de la relation privilégiée que Sabrina et moi nous entretenons grâce aux quinzaines. Et donc, elle m'avait demandé de préparer quelque chose sur Rosa Luxembourg et le colonialisme. Et donc, avec Anaïs, nous nous étions rencontrés et tu avais été intéressée aussi par ce thème. Ce qui est très frappant dans l'analyse de Rosa Luxembourg et du colonialisme, c'est, comme on le voit ici de nouveau, c'est sa sensibilité, c'est sa manière d'écrire, qui est toujours une manière d'écrire qui n'est pas froide, qui est beaucoup, où il y a beaucoup d'images, de métaphores. Pour moi, c'est... il y a des dizaines de textes sur le colonialisme qu'elle a rédigés entre 98 et sa mort. Et tous ces textes déjà se marquent par cela. Et la deuxième chose qui est très importante pour moi, c'est que pour elle, il y a... Les peuples colonisés sont des prolétaires en puissance. C'est la première chose. Et la deuxième chose, les peuples colonisés sont les premières victimes du développement impérialiste qui s'est manifesté au XIXe siècle dans le cadre du capitalisme. Et elle a des mots d'une grande beauté aussi sur ce que les pays impérialistes ont fait subir à tous ces peuples. C'est un peu le thème de ce soir. Et bon, nous n'avons pas le texte, ni l'une ni l'autre, bizarrement, qui va ouvrir la rencontre de ce soir. Mais c'est un texte extrêmement fort et très, très précis, où elle montre le lien entre les massacres des héréros, des peuples africains qui a été massacré par l'Allemagne de Guillaume II et les morts de 14. C'est un texte qui est écrit en 1915. Je crois que Rosa Luxembourg fait partie de ces rares personnes qui ont été capables, tout au long de leur vie, de refuser tout ce qui pouvait favoriser le massacre des hommes, des êtres humains, et qu'elle l'a fait dans une multitude de textes que j'invite tout le monde à lire et à découvrir. Et surtout, pour comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes dans le même cas de figure, nous sommes maintenant à l'ère de la mondialisation, il y a d'autres rapports de force qu'au XIXe siècle, mais nous sommes toujours dans la même exploitation capitaliste du monde, dans le massacre. Et nous sommes toujours aussi, pour quand même, ce qui est très important pour elle, nous sommes toujours aussi, nous, le vecteur de l'échec du capitalisme. C'est notre conscience et c'est nos luttes qui feront cela.
Aide-moi maintenant, mais vite. Aide-moi maintenant, mais vite, à résoudre l'idée suivante. Avec le développement du capitalisme se développent les contradictions et la nécessaire disparition non seulement de l'économie capitaliste, mais aussi de l'État capitaliste. Ce dernier, c'est-à-dire la politique capitaliste, tend aussi à son effondrement. Une illustration pratique. Jusqu'à il y a environ 5 ou 6 ans, Constantinople jouait un rôle central autour duquel toutes les luttes internationales se jouaient. Mais comme il ne s'agissait là que de posséder un point de vue purement stratégique, une politique s'est développée ces dernières années de protection de l'intégrité de la Turquie afin de maintenir les équilibres politiques. De ce fait, la question de Constantinople resta au point mort, point auquel les relations internationales se fixèrent. Vers 1895 eut lieu un changement important. La guerre japonaise ouvrit la porte vers la Chine et la politique européenne, poussée par les intérêts capitalistes et d'État, se déversa vers l'Asie. Constantinople passa au second plan. C'est là, en Asie, que s'affrontent les États et que la politique trouve un large champ d'action. La conquête et le partage de toute l'Asie sont devenus le but vers lequel tend toute la politique européenne. Il s'ensuit le démembrement actuel, incroyablement rapide, de la Chine et actuellement, la Perse et l'Afghanistan sont aussi attaqués par la Russie et l'Angleterre. Cela entraîne un nouvel essor des antagonismes européens en Afrique et le combat s'enflamme là-bas, aussi, avec une force nouvelle. Fashoda, Madagascar. Un texte de Rosa Luxembourg, donc, qui a été adressé à Léo Jogiches.
Bonne prononciation. Léo Jogiches, donc, qui est un autre grand militant de la Ligue spartakiste. Léo Jogiches, avec lequel elle a fondé en 1893, et donc elle avait 23-24 ans, un parti social-démocrate sur des bases marxistes.
En Pologne.
En Pologne. Et contre la création d'un parti socialiste réformiste. Et Léo Jogiches, donc Rosa Luxembourg, est assassinée en même temps que Karl Liebknecht. 3 mois après, c'est Léo Jogiches qui est assassiné d'une balle dans le dos, dans la plus pure tradition des militants qui s'enfuient et qu'il faut arrêter par ce moyen. Donc voilà, c'est le troisième assassinat. Mais je tiens toujours à rappeler que, en même temps que Rosa Luxembourg, Liebknecht, le Jogiches, ce sont des milliers de prolétaires qui ont été assassinés par la social-démocratie pendant la révolution spartakiste, et que l'on ne peut comprendre la montée du fascisme et du nazisme et la violence du nazisme en Allemagne que si l'on comprend qu'en 1919, des milliers de prolétaires qui revenaient du front, qui voulaient une révolution comme elle a eu lieu en 17 à...
En Russie,
que des milliers de ces hommes et ces femmes ont été assassinés. Et que le fascisme est né aussi de la trahison du réformisme social-démocrate. Je pense que c'est encore là quelque chose qu'il faut comprendre aujourd'hui. Voilà.
De toute façon, notre émission touche à sa fin, mais... peut-être quelques mots sur l'actualité de nos différentes, peut-être de l'ensemble Romana. Peut-être est-ce que vous avez des actualités, des lectures ou des projets, des résidences ou des créations où on pourrait vous découvrir à Saint-Étienne ou ailleurs, hein, par ailleurs à Lyon ou ailleurs.
Oui, mais enfin c'est pas pour. Maintenant, ce serait peut-être un peu étrange d'évoquer un projet sur lequel on est, qui ne verra pas le jour avant plus d'un an. En revanche, voire 2 ans.
Alors,
on hésite. En fait, on va lancer un appel. Quel sera l'auteur de la prochaine quinzaine qui aura lieu en 2018?
Ouais.
Moi, j'ai 2 pistes. Anaïs, t'en as aussi, peut-être. Donc, voilà, peut-être on peut lancer un appel. Allez, après Bretigan, Rosa Luxembourg et Katabi Yassine, vous avez envie de découvrir qui ou d'entendre qui. Peut-être on peut lancer un appel, tiens, ouais, pour la blague.
Moi, j'ai des envies. Hein.
moi aussi. Donc voilà, donc ça, mais ça, bon, ça c'est 2018, si jamais on est encore... on n'est pas, nous, réduits, enfin nous, je dis nous, pas nous à Saint-Étienne et pas nous, l'ensemble Romana, hein, c'est pas du tout ça, mais si on n'est pas réduit au silence et qu'on peut continuer à travailler et à faire du théâtre, alors peut-être qu'en 2018, il se passera des choses, on l'espère. Après, sinon, voilà, sur l'année, les mois qui viennent, oui, bah, probablement des petites choses, des lectures, reprises de spectacles, enfin voilà, mais j'ai pas de date à proposer.
Peut-être le nom d'un site internet où on peut retrouver l'actualité.
Absolument pas. Il est en cours de construction depuis 2003 que l'ensemble Romana existe. On n'a toujours pas eu ni les moyens ni le temps de faire un site. Mais bon, voilà, ça arrive. Patience.
Oui, voilà. S'il y a des personnes qui veulent se dévouer pour faire un site internet, il faut nous prendre contact avec nous au théâtredelagamelle@gmail.com.
Il y a des sites, des quinzaines.
Oui. Ah oui, il y a les blogs, oui, qu'on a blogs, sur chaque... Ouais. Sur chaque,
la quinzaine Rosa Luxembourg et sur la quinzaine Katabiasine. Et puis je renvoie aussi les auditeurs au blog que tu animes, Dominique, qui s'appelle Comprendre avec Rosa Luxembourg. Je pense que... Je ne sais pas si c'est l'adresse complète de...
En tous les cas, comprendre, c'est le mot le plus important avec, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut nous inspirer. Il ne s'agit pas d'en faire un luxembourgisme quelconque, c'est vraiment comprendre avec. Malheureusement, je suis encore sur Overblog, je dis malheureusement, puisque pour voir le blog sans publicité, il faut un bloqueur de publicité. Puisque, paraît-il, le blog est envahi, comme tous les blogs Overblog. Il n'y a pas de gratuit, ça n'existe pas dans la société capitaliste, depuis le mois d'août, par des...
Des pubs.
Voilà, mais avec un bloqueur, pas de souci.
Ok. Bah, il nous reste à vous dire que vous pouvez nous retrouver ce soir, Sabrina, Dominique et moi-même, jusqu'ici, donc le local... de Table Rase, l'association marxiste d'échange et de débat qui se situe donc au 169 Grande Rue de la Guillotière et où à 18h30 en ce jour de 11 novembre 2016 nous disions mort à la guerre, mort au capitalisme, et autour de Rosa Luxembourg nous analyserons comment il y a des passerelles, des parallèles importants dans notre période, tu l'as dit Sabrina, très trouble. Donc je vous attends nombreuses et nombreuses ce soir. Donc merci à vous d'avoir répondu à l'invitation du Théâtre de la Gamelle. Et puis on continue ce soir. Et puis votre émission continue la semaine prochaine, vendredi. Au revoir.
Au revoir et merci Anaïs.
Au revoir et merci.